Radio, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
Les dossiers du journal de Millau en ondes.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus.
Tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, les journalistes du journal de Millau passent du stylo au micro.
J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre, abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous des dossiers du journal de Millau. Alors quelques jours après le retour des vacances d'hiver et alors que la carte scolaire a été présentée en ce début de semaine, le dossier de ce mois de mars s'intéresse au métier d'enseignant. Être professeur en 2025, qu'est-ce que cela représente à l'heure actuelle? Que pensent les principaux concernés d'un métier dont l'attractivité est régulièrement remise en question? Pour tenter d'apporter des éléments de réponse, nous avons interrogé des Miavois et Miavoises qui ont choisi de se tourner et pour certains ensuite de s'en détourner de l'enseignement. Parmi nos témoins, Julien qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Julien et merci de partager ton histoire. Donc Julien, tu es originaire de Millau où tu as suivi ta scolarité jusqu'à l'obtention de ton bac avant de suivre des études supérieures à Toulouse. Tu as été professeur de musique en collège entre 2017 et 2023 et aujourd'hui tu te consacres à la composition musicale. Alors pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et pourquoi avoir choisi de devenir professeur?
Oui, alors moi j'ai un parcours, j'ai eu la chance d'avoir un parcours scolaire qui a plutôt bien fonctionné et donc j'ai fait... comme ça a été dit, toute ma scolarité à Millau jusqu'au bac. Et ensuite, je suis parti faire des études de musicologie et suivre un cursus au conservatoire de Toulouse en guitare et en formation musicale. Il s'avère que mon parcours au conservatoire c'est pas forcément terminé comme je l'aurais espéré. Et moi, si j'ai passé le concours au départ, c'est parce que avec ma licence de musicologie, c'était un des débouchés les plus directs, on va dire, pour pouvoir, à l'époque, gagner ma vie et plus avoir besoin de demander d'aide à papa et maman. Et bien, le fait d'avoir une licence et de pouvoir passer un master et le concours, c'était la première solution qui s'est présentée. Donc, du coup, j'ai passé le concours en 2017 et j'ai commencé ma carrière d'enseignant à ce moment-là.
Alors, après le pourquoi, donc tu l'as un petit peu expliqué, tu as passé un concours. Est-ce que tu peux revenir sur le comment on devient professeur aujourd'hui? Donc, peut-être le niveau d'études qu'il a fallu que tu atteignes avant de pouvoir passer ce concours. Et ensuite, un peu plus concrètement, comment ça se passe une fois qu'on a le concours? Est-ce qu'on choisit le lieu où on va, l'établissement? Et comment est-ce qu'on s'adapte, en fait, à tous ces changements?
Oui, alors aujourd'hui, ça changera peut-être, mais aujourd'hui, pour être professeur de musique titulaire, il faut donc avoir un master et passer le CAPES pour les collèges, le CRPE pour l'école primaire, qui sont des concours, donc, pour devenir enseignant titulaire dans la fonction publique. Le CAPES de musique, à l'époque où je l'ai passé, moi, on pouvait le passer en première année de master. Donc moi, j'ai eu mon concours à la fin de ma première année de master. Et j'ai fait ma deuxième année de master sous une espèce d'alternance où, en gros, j'étais la moitié de la semaine en établissement face aux élèves et l'autre moitié de la semaine en formation au sein de l'ESP. D'ailleurs, ça s'appelle l'INSP maintenant, qui est donc l'institut dans lequel on forme les enseignants. Quand on passe le concours, ça se déroule en deux étapes. On a d'abord une épreuve écrite, puis un certain nombre de personnes sont considérées comme admissibles et envoyées à l'épreuve orale. Et une fois qu'on a le concours, on devient donc professeur stagiaire. Alors pareil, ça a évolué, mais moi quand j'ai eu le concours, un professeur stagiaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, travailler à mi-temps pour pouvoir faire sa formation à côté. Et cette année à mi-temps se fait dans la plupart des cas dans l'académie dans laquelle on a été inscrit à l'ESP pour préparer le concours. Donc moi j'ai fait mon année de stage à Revel, à une grosse heure de Toulouse. Et une fois arrivé à la fin de cette année de stage, on est inspecté pour être titularisé. Et à ce moment-là, entre le jeu des mutations et le principe de mutation dans l'éducation nationale, c'est un système de points. Et donc, ça se déroule en deux étapes. On est en plein dedans en ce moment pour les gens qui sont en train de le vivre. D'abord, la mutation interacadémique qui détermine dans quelle académie on va travailler. Puis, la mutation intra-académique qui détermine dans quel établissement on va travailler au sein de l'académie. Donc, moi, ma première académie d'affectation, ça a été l'académie d'Orléans. J'ai travaillé à Gien, donc à une heure à l'est d'Orléans. Et je m'en suis plutôt bien sorti, puisque j'étais paxé et que la situation familiale octroie des points pour les mutations. Et donc j'ai passé un an dans l'Académie d'Orléans, avant de pouvoir petit à petit revenir sur l'Académie de Toulouse et me rapprocher de mon lieu de vie et donc de Toulouse.
Toujours à partir de ton expérience, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes missions en tant que professeur de musique? Alors, sur un côté peut-être vraiment pratique, l'organisation de ton emploi du temps, un petit peu les enseignements. Et ensuite, peut-être on pourra aborder alors justement les aspects autres que ceux liés à l'enseignement de ta matière. Comment tu décrirais le rôle d'un professeur aujourd'hui?
C'est intéressant comme question. Sur l'organisation, je pense que de toute façon, il n'existe pas vraiment de professeurs identiques, mais l'idée, c'est d'être plus ou moins en permanence dans la recherche de la manière la plus efficace de toucher les élèves. Alors la musique, c'est une discipline qui a plusieurs particularités. La première, c'est que puisque les élèves ont juste une heure de musique par semaine, déjà on ne les voit pas énormément, c'est-à-dire que il y a 36 semaines de cours dans une année scolaire, une heure de cours, le temps des changements de salle en collège, le temps de faire l'appel, etc., on peut considérer qu'on a à peu près 50 minutes effectives. Bon, 50 fois 36, ça fait, si on le compare au nombre d'élèves, ça fait presque une moyenne d'une heure par élève et par an. Donc c'est quand même un cadre assez particulier et dans lequel moi, en musique, l'objectif, c'était de rendre les élèves plus curieux. Si à la fin de l'année, ils étaient plus curieux qu'au début, c'est que je considérais que j'avais bien travaillé. Et en plus de ça, il y a aussi le fait d'avoir beaucoup d'élèves. C'est-à-dire que le fait qu'on ait les élèves une seule heure par semaine fait que, forcément, pour avoir un temps plein, on est obligé d'avoir beaucoup de classes. Bon, la dernière année que j'ai passée dans l'éducation nationale, j'avais 19 classes plus la chorale. Ça me faisait, à peu de choses près, 550 élèves dans l'année. Donc c'est une organisation qui implique de passer du temps pour réfléchir aux problématiques de chacun des élèves, parce que de plus en plus, il est demandé aux professeurs d'individualiser au mieux leurs pratiques en fonction des cas particuliers. Et c'est un fonctionnement qui demande d'être relativement efficace dans le fait de capter l'attention et d'intéresser les élèves, puisque vu qu'on les voit peu, eh bien, il faut arriver à les intéresser dans le temps qui nous est imparti. Voilà. Après, je pense pas qu'il y ait des grands principes. La manière dont on construit son année, globalement, séquence par séquence, c'est des choses qu'on retrouve un peu partout et qui sont regardées lorsqu'il y a des inspections, les progressions annuelles, etc. Mais je pense que l'idée, ce qui fait qu'un professeur arrive à toucher ses élèves, c'est quand aussi il arrive à construire son avancement, ses séquences à sa propre manière et qu'il arrive à faire en sorte de, lui, avec ce qu'il est, son vécu, etc., toucher ses élèves de la manière la plus efficace possible. Donc voilà, ça demande surtout, il y a cette idée reçue souvent que quand on est prof, on peut préparer ses cours une fois au début de sa carrière et puis après on refait les mêmes toute sa vie. Je pense que non, je pense que pour être efficace, le point central de l'organisation de l'enseignement, c'est probablement de faire en sorte d'évoluer en fonction et des élèves, et du fait que les élèves qu'on a en début de carrière, quand on vient d'avoir le concours, sont pas forcément les mêmes élèves qu'on aura en fin de carrière, quand on aura 35 ans d'enseignement, et puis le professeur en début de carrière n'est pas le même que quand il évolue. Donc voilà, ça nécessite surtout d'être conscient qu'il faut faire évoluer les choses en fonction de soi et en fonction du public qu'on a en face de soi.
Alors justement, pendant ton expérience, comment est-ce qu'on, en tant que professeur, comment est-ce qu'on sait quelque part qu'on a réussi à transmettre quelque chose à ses élèves? Est-ce que tu as des exemples, peut-être des moments où tu t'es dit « Ah ben là, j'ai réussi ce que je voulais faire ».
Déjà, il y a un ressenti, il y a des séances où on sent que ça marche, où on sent que... On a beaucoup de gens, d'élèves qui ont participé, qu'on a l'impression que ça a bien avancé pour le cours de musique, et bien que justement on a réussi à créer des rendus musicaux qui étaient chouettes, qui étaient jolis à entendre. Et puis il y a aussi des moments où c'est un peu plus ingrat, dans le sens où ben, les élèves s'arrêtent pas forcément de nous dire à chaque fois qu'ils ont compris un truc, et c'est normal. Mais c'est par contre un moment extrêmement gratifiant de voir un enfant qui vient en fin d'heure voir son prof et lui dire « Ah, je suis content, aujourd'hui j'ai compris des trucs, aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir avancé », c'est des choses qui, pour le coup, font vraiment plaisir et permettent aussi de constater l'intérêt et la légitimité du travail qu'on fait. Voilà, il y a un ressenti sur des séances qui se passent bien. Et puis, il y a aussi, on parlait d'individualiser tout à l'heure, il faut aussi penser au fait qu'on a 30 élèves dans une classe, et donc c'est compliqué de se dire qu'on va toucher tous les élèves à chaque fois de la même manière, avec la même efficacité. Donc voilà, il faut toujours avoir en tête cette recherche, d'essayer de faire au mieux pour donner les outils à chacun d'entre eux pour avancer. Et voilà, et donc on a le ressenti quand ça marche bien, on a aussi le ressenti quand ça marche pas, et faut aussi être capable de se remettre en question et de se dire que il y a plein de raisons pour lesquelles des fois ça peut mieux marcher que d'autres, des fois ça peut venir... Voilà, un élève est pas forcément toujours réceptif du fait de ce qui se passe à la maison, du fait qu'il soit fatigué, etc. Il faut aussi être capable de se dire que peut-être qu'en tant que prof, on s'est planté dans la manière dont on a construit la séance, qu'aussi peut-être en tant que prof, ben, justement, on est un peu en représentation devant 30 élèves toutes les heures, on a le droit d'être en méforme, on a le droit des fois d'être moins bon que d'autres, et donc du coup, il faut être capable de faire un peu son autocritique là-dessus quand on sent que la séance a été moins efficace. Mais voilà, je pense que ça se ressent quand même pas mal quand on est face aux élèves, on le voit si on est en train de faire quelque chose qui les embarque, ou si au contraire on est plus en train d'essayer de se débattre pour avancer. Ça se ressent assez rapidement.
Alors toi, donc tu as enseigné jusqu'en 2023, date à laquelle en fait tu as quitté l'éducation nationale. Est-ce que tu peux expliquer et revenir sur ce choix ?
Il y a plusieurs éléments qui m'ont poussé à faire ce choix-là. Alors, on a parlé tout à l'heure des débuts de carrière où déjà on ne choisit pas forcément où on va, et donc ça peut être un moment assez particulier. Voilà, moi j'étais déjà avec ma compagne au moment où j'ai eu le concours, je me suis retrouvé à partir à plus de 6 heures de route, à faire des allers-retours tous les week-ends, etc. C'est des choses qui peuvent peser un peu, ça a été un premier point, même si moi j'ai eu la chance quand même de revenir relativement vite sur l'Académie de Toulouse et puis de me rapprocher de chez moi relativement rapidement. Mes trois dernières années d'enseignement, j'étais à une demi-heure de chez moi, donc c'était pas trop compliqué à ce niveau-là, mais bon, sur les premières années, ça a été quelque chose qui a pu être un peu déterminant. Et puis ensuite, il y a malheureusement un constat sur l'évolution de l'institution qui, moi, m'accable un petit peu. C'est-à-dire que j'avais tendance à travailler avec le sentiment que l'intérêt des élèves n'était pas forcément la priorité recherchée d'un point de vue institutionnel. Là, on rentre plus dans la dimension politique de tout ça, mais je pense que malheureusement, aujourd'hui, on n'accorde pas politiquement à l'éducation l'importance qu'elle devrait avoir. Je suis convaincu qu'une des plus belles choses qu'on ait dans notre pays, c'est le fait d'éduquer tous les gens, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient et quoi qu'ils veuillent faire. Et ça vaut pour l'éducation comme pour n'importe quel autre service public. Ça vaudrait pour la santé, le fait de soigner tout le monde. Voilà, je trouve que ça fait partie des plus belles choses qu'on a chez nous. Et malheureusement, On a une école qui est en manque flagrant de moyens depuis des années. Tout le monde le dit, tous les gens qui travaillent dans le secteur le disent. On a des classes de plus en plus surchargées. On manque de profs de manière très évidente. Tous les ans, on a plusieurs disciplines où il y a moins d'inscrits au concours que de postes à pourvoir. Et du coup, je trouve qu'on est arrivé à un point où l'élève n'est plus au centre de la préoccupation. Qu'on est plus là pour faire en sorte que la machine tourne, qu'on ne fasse pas trop de bruit, qu'on ne choque personne, qu'on ne dérange personne. Mais au final, je pense que les élèves en pâtissent. Et on a aujourd'hui une vision de l'école qui, dans la manière dont on l'a décrit, est souvent très péjorative. C'est-à-dire qu'on a quand même donné beaucoup aux professeurs l'image du fonctionnaire feignant qui est en vacances les trois quarts de l'année. Et ça a été aussi soutenu. Enfin, c'est des visions qui sont soutenues par des grandes personnalités. Je pense par exemple à une interview de Nicolas Sarkozy qui a eu lieu il n'y a pas longtemps où il explique qu'un prof de maternelle, si on enlève les week-ends et les vacances, il bosse la moitié de l'année et qu'il n'a probablement pas beaucoup de boulot à la maison. Bon, je ne suis pas convaincu que ce soit avec ce genre de discours qu'on aide à redonner une estime et une confiance en l'éducation nationale auprès des gens. Donc il y a une espèce de climat de défiance qu'on a créé. Il y a ce manque de moyens. Voilà, on sait qu'il manque des professeurs, etc. Et ces moyens n'arrivent pas forcément. Et en plus de ça, on a vu des épisodes, je me souviens par exemple de Jean-Michel Blanquer il y a quelques années, qui se félicitait d'être excédentaire de centaines de millions d'euros à la fin de l'année sur le budget de l'éducation nationale. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens au sein de l'éducation nationale qui se diraient avec 200 et quelques millions, on peut payer deux ou trois profs quand même. Donc je pense qu'il y a... Il y a cette question-là qui m'a beaucoup posé d'arriver à donner du sens à ce que je faisais dans un fonctionnement où j'avais l'impression que l'élève n'était pas au centre de l'équation. Voilà, je pense qu'on n'est pas censé faire l'école ni pour les parents, ni pour que politiquement des gens puissent mettre leur nom sur des réformes. Je pense qu'on devrait faire l'école pour les enfants et que s'il n'y avait que les enfants dans l'éducation nationale, ça se passerait probablement beaucoup mieux. Donc il y a une série de choses. Il y a cette évolution de l'institution qui me plaisait pas. Il y a le fait que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément un métier que j'ai fait par vocation au départ aussi. C'est un peu la trajectoire logique qui m'y a amené. Et puis sur la fin, je sentais que moi, j'étais beaucoup moins motivé. J'avais beaucoup plus de mal à faire la part des choses et à vraiment passer du temps chez moi pour prévoir des projets intéressants à faire avec les élèves. Et donc, je me suis dit que pour moi, c'était nécessaire de faire autre chose, mais je me suis aussi dit qu'on a tous eu des profs dans notre vie qui n'avaient pas envie d'être là et où, en tant qu'élève, on le ressentait et c'est pas agréable. Et les enfants, eux, ils y sont pour rien si moi, j'ai plus envie de faire ce travail-là. Donc, autant laisser la place à quelqu'un de plus motivé qui leur fera des choses plus intéressantes que moi. En plus, j'ai la chance de connaître celle qui a récupéré mon poste après que je sois parti, qui est une super prof, qui est hyper motivée, qui fait plein de projets. Et donc, je suis très content, et pour elle et pour les enfants. Et moi, je suis parti faire quelque chose qui me plaît davantage, en étant sûr de laisser les enfants entre des mains motivées.
Tu l'évoques, donc le regard que tu peux porter aujourd'hui sur le système éducatif actuel. Quels éléments, selon toi, seraient prioritaires à améliorer? Tu parlais un petit peu du manque de moyens. Peut-être de la perception aussi que la société peut avoir du métier. Selon toi, sur quels éléments clés il faudrait agir en priorité?
Mais je pense que déjà, ces deux-là sont très importants. Je pense que le manque de moyens, c'est... Heureusement, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Et que si on avait plus de profs... pour pouvoir avoir de moins gros effectifs dans les classes, et on pourrait plus facilement s'adapter aux besoins individuels de chaque élève. Que du coup, aujourd'hui, voilà, on a ce manque d'effectifs qui est comblé aussi, dans beaucoup de cas, en embauchant des vacataires et des contractuels qui sont malheureusement souvent pas assez formés. Alors, je précise tout de suite, je suis pas en train de dire qu'un professeur contractuel est pas un bon enseignant, c'est pas du tout ce que je dis. mais il y a beaucoup de professeurs contractuels qui arrivent avec très très peu de temps de formation et sur lesquels on aurait pu investir davantage de temps et de moyens pour leur permettre d'arriver face aux élèves en étant certaine de la manière dont ça allait se passer et en ayant le plus d'armes possible. Je pense que malheureusement, on a un souci dans la formation, notamment des professeurs contractuels, qui n'est pas assez conséquente. Donc ça rejoint aussi cette idée de manque de moyens, c'est que on manque de professeurs et au niveau des gens qu'on embauche pour pallier à ce manque de professeurs, ils mériteraient qu'on leur consacre plus de moyens pour mieux les former, parce que c'est pas anodin de se retrouver une fois de plus devant 30 ados et de les avoir sous sa responsabilité. C'est quelque chose qui s'invente pas et qui s'apprend. Donc le manque de moyens, je pense, est une des grandes causes des problèmes de l'éducation nationale à l'heure actuelle. La perception également, parce que il y a plusieurs choses à dire sur la perception. La première, c'est comment on rend le métier attractif, comment on fait en sorte que les gens aient de nouveau cette vocation, de nouveau envie de venir faire professeur, enseigner. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait de redonner une image saine et une image inspirante du corps enseignant et des gens qui participent à l'éducation en général. Parce que quand on parle de l'éducation, il y a les enseignants, certes, mais il ne faut pas oublier que dans un établissement scolaire, il y a les adultes, ça ne s'arrête pas aux enseignants. Il y a les surveillants, il y a les conseillers d'éducation, il y a les infirmières scolaires, les psychologues de l'éducation nationale, les équipes administratives. Alors, ça serait oublier beaucoup de monde que de ne parler que des enseignants, et surtout, il serait grave d'oublier tous les agents, toutes les personnes qui travaillent au bon fonctionnement des établissements. Donc il faut qu'on arrive à re-rendre la profession inspirante, à se battre contre cette défiance qu'on a créée, et je pense aussi qu'on a des adaptations à trouver sur la place des parents dans l'éducation nationale. On a depuis plusieurs années donné beaucoup plus de place aux parents, ce qui est très bien. Il faut que les parents aient leur mot à dire sur ce qui se passe à l'école. Il faut que les parents puissent être au courant de la manière dont leurs enfants sont encadrés et aient un droit de regard sur ce qui se passe. Il faut pas non plus que ça devienne un frein, entre guillemets, à la liberté pédagogique. C'est-à-dire, il faut pas que on en vienne à aborder des sujets différemment et par des moyens qu'on jugerait moins efficaces pour les enfants, de peur que ça ne plaise pas aux parents. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit. Moi, ça m'est arrivé de parler de sujets un peu complexes avec des élèves et qu'au final, on arrive sur des discussions très pertinentes et sur lesquelles les élèves étaient demandeurs, et de me faire dire, soit par des parents, soit par des membres de ma hiérarchie, que c'était une erreur de parler de ces sujets-là, parce que qu'il fallait pas faire trop de vagues et qu'il fallait éviter les sujets complexes. Je pense que voilà, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre là-dessus également. Et puis, c'est des remarques, une fois de plus, qui sont selon moi valables pour tout le service public. Il faut qu'on... L'idée de donner au moins les moyens à l'éducation de faire son travail correctement, c'est ça qui va ramener la confiance au niveau des gens. C'est-à-dire que si les gens ont la conviction que l'école a les moyens de bien s'occuper de leurs enfants et de leur fournir autant que possible une égalité des chances et des possibilités de réussite future, parce que j'imagine que n'importe quel parent qui envoie ses enfants à l'école, il espère que ses enfants puissent se servir de l'école comme un tremplin vers quelle que soit la profession ou la situation qui les rendra heureux plus tard. C'est ça le but de l'école, c'est d'essayer de donner le plus possible à chacun les moyens de faire ce qui le rendra heureux. Mais ça passe par le fait de donner confiance et que les familles soient convaincues que l'école a les moyens humains et financiers d'aider leurs enfants à être le plus heureux possible dans leur vie future. Donc voilà, je pense que il y a la question des moyens, la question de la perception, et la question de la confiance qu'on place et en l'école et en les gens qui y travaillent.
Peut-être pour terminer, une question un peu plus personnelle sur toi, justement, ce passage au sein de l'institution, qu'est-ce que tu en retires sur le plan personnel, professionnel, qu'est-ce que ça t'a apporté?
J'en retire, la manière dont j'en parle pourrait le laisser entendre, mais j'en retire évidemment pas que du négatif. J'ai rencontré plein de gens géniaux sur mon passage dans l'éducation nationale. J'ai eu la chance au fil des établissements. Donc, j'ai travaillé 6 ans dans l'éducation nationale et en tout, entre les années où j'ai eu des postes fixes et les années où j'étais séparé sur plusieurs établissements, j'ai travaillé dans 7 collèges différents. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde et beaucoup de personnes extrêmement chouettes qui sont restées de très bons amis. J'ai eu la chance aussi de découvrir le monde professionnel. Malgré tout, maintenant que je suis confronté à autre chose, je me rends compte que le monde professionnel est pas que l'éducation nationale, parce que vu que j'ai eu le concours relativement jeune, moi j'étais sorti de l'école en tant qu'élève pour rentrer à l'école en tant que prof. Donc je suis en train de redécouvrir un peu ça, mais voilà, ça a été plein de belles rencontres, que ce soit avec des élèves ou avec des collègues. Ça a été également, il faut le dire, même si la question des salaires est souvent soulevée quand on parle des enseignants, moi c'est aussi le fait d'être enseignant qui m'a permis de pouvoir acheter l'endroit où je vis, parce que c'est rassurant pour une banque d'avoir quelqu'un qui est enseignant en face quand il s'agit de signer un crédit, parce qu'il y a cette sécurité de l'emploi, etc. Donc ça m'a apporté pas mal de choses. Ça m'a fait évoluer sur ma vision aussi du monde, dans le sens où une fois de plus je reste convaincu que notre système d'éducation, c'est une des plus belles choses qu'on a et que c'est quelque chose pour laquelle il vaut la peine de se battre. Et donc, ça m'a poussé à réfléchir et à me poser beaucoup de questions sur la société dans laquelle on vit et ce qui, selon moi, mériterait d'être amélioré. Et ensuite, ça m'a aussi laissé... j'en suis parti sereinement, dans le sens où j'en suis parti déjà en sachant une fois de plus que je laissais la place à quelqu'un de motivé derrière, et en voyant que les gens qui restaient étaient motivés pour faire de belles choses. Et j'en suis parti aussi avec la sérénité de savoir que pour moi c'était le bon choix d'en partir. Et un an et demi plus tard, j'ai aucun regret sur le fait d'avoir décidé de changer professionnellement. Donc je suis relativement serein aujourd'hui quant à la pertinence du choix d'avoir changé d'orientation.
Merci Julien pour ce témoignage. Donc un témoignage qui a retrouvé dans le journal de Mio du 13 mars avec ceux d'autres Miavois qui ont choisi d'embrasser la carrière de professeur et qui nous livrent leur vision du métier. Merci.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leurs toits, on lisse, glisse des scies. Superpositions de suppositions. Ils vont me mettre ma télé en bouteille. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter, sauf...